contre, je pense que la sauvegarde de la Convention européenne des droits de l'homme, la sauvegarde de la voie bilatérale, c'est des éléments qui sont nécessaires. Je vous rappellerai que lorsque le Parti socialiste a été intégré au Conseil fédéral, il a dû reconnaître le principe de la défense nationale.
L'adhésion à la défense nationale pour le Parti socialiste, c'était dans les années 30. Le soutien des candidats de l'UDC à la voie bilatérale avec l'Union européenne, dont la libre circulation des personnes fait partie, voilà qui risque de provoquer encore bien des discussions jusqu'au 9 décembre, jour de l'élection du Conseil fédéral.
Pour la première fois, l'Église de Scientologie se retrouve devant la justice en Belgique après des années d'enquête. Et on peut donc le dire, Nathalie De Vic, c'est un procès historique qui s'est ouvert à Bruxelles.
Un procès inédit et très attendu puisque cela fait 18 ans que l'instruction a débuté sur base de plaintes d'anciens membres, des adhérents qui se sont tous peu à peu rétractés. L'Église de Scientologie a la réputation de faire subir de grosses pressions sur ceux qui la mettent en danger, voire d'acheter leur silence. C'est donc à l'initiative du parquet qu'elle comparaît aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, ce qui n'impressionne nullement le porte-parole de l'organisation Éric Roux.
Pour nous, c'est la fin de 18 ans de harcèlement judiciaire, c'est la fin d'une instruction qui était interminable, et sans doute que quand la justice va prendre le temps de regarder réellement, elle verra que ces accusations sont fantaisistes et n'ont pas lieu d'être.
Sur le banc des accusés, au total, 13 personnes physiques et morales, parmi lesquelles le bureau européen de Scientologie.
Alors justement, quels sont les faits qui leur sont exactement reprochés, Nathalie ?
Bien, les préventions sont nombreuses et variées. Cela va de l'exercice illégal de la médecine au non-respect de la vie privée, en passant par de multiples fraudes et escroqueries. Certaines victimes ont vu leur vie, suite à cela, complètement détruite.
C'est du gros business, quoi. Et comme vous avez investi déjà beaucoup d'argent, après, on se dit, ben, je vais pas lâcher maintenant. Si je rame, c'est qu'il y a des choses à voir chez moi qui doivent se résoudre. Voilà, c'est un piège dans lequel je suis tombé.
Mais la principale accusation, c'est celle d'organisation criminelle. C'est là que réside tout l'enjeu de ce procès, car si cette dernière charge est prouvée, l'Église de Scientologie ne pourra plus exercer chez nous. Ce serait une première, parce que même si elle y est considérée comme une secte dangereuse, ça ne l'a jamais encore arrêtée. Il faut dire que les sommes d'argent brassées sont gigantesques et que son influence est grande dans de nombreux pays, qui tous d'ailleurs ne la considèrent pas comme nuisible. Si c'est le cas en France, c'est loin de l'être aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie ou encore aux États-Unis où elle est une religion à part entière. Si elle devait donc disparaître en Belgique, nul doute que cette décision ne resterait pas sans conséquences dans le reste du monde.
C'est une histoire digne d'un scénario de polar. La fuite ou l'exfiltration de deux pilotes français condamnés à 20 ans de prison pour trafic de cocaïne en République dominicaine. Le gouvernement français déclare qu'il n'a joué aucun rôle dans cette évasion. Ce ne serait donc pas une affaire de service secret, mais une opération commando privée. Alors est-ce que c'est plausible, Annette Ardisson ?
Possible en tout cas, dans la mesure où Pascal Forêt et Bruno Audos sont d'anciens pilotes de l'armée de l'air, reconvertis dans l'aviation d'affaires. Dès leur arrestation, un comité de soutien d'ex-militaires a été créé. Vantardise ou pas, un député Front National affirme même avoir organisé leur exfiltration.
Et sait-on maintenant comment ils sont partis ?
Ils étaient assignés à résidence à Saint-Domingue, mais libres en attendant leur procès en appel. Ils auraient rejoint en bateau l'île franco-néerlandaise de Saint-Martin, avant d'embarquer sur un vol pour la Martinique, département français, puis de rentrer à Paris avec une autre compagnie. Depuis le début, les deux hommes clament leur innocence. Ils affirment qu'ils ne savaient pas que les 26 valises chargées à bord de leur avion en 2013 contenaient 680 kilos de cocaïne. Défense peu crédible, selon notre spécialiste aviation et pilote lui-même, Michel Polacco. Sur un avion de ligne, le pilote n'est pas responsable du contrôle des bagages. Mais sur un vol d'affaires, il organise tout. Et puis, un Falcon 50 a vocation à transporter essentiellement des passagers, pas du fret.
Il est peu imaginable qu'un équipage technique des pilotes ne s'inquiète pas du fait qu'à l'arrière, il n'y a pas des passagers, mais il n'y a que des bagages.